Je lis pour vous.
Lecture vagabonde de Hélène Vignon sur Radio Alliance Plus. Lire, un plaisir qui se partage.
Hélène Vignon pour Radio Alliance Plus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans notre lecture du livre « Une année en Provence » de Peter Mayle, traduit de l'anglais par Jean Rosenthal, Nil Édition, nous retrouvons nos Anglais à la découverte d'un aliment particulièrement bien représenté dans cette région de Provence. Le pain, ou plus, les pains. Chez un boulanger, ils ont même utilisé une carte des pains pour faire leur choix. Mais tout n'est pas aussi agréable dans la vie. Témoin, l'épisode de l'employé EDF ne pouvant contrôler le compteur à cause d'un envahissement par des fourmis. Quant à sa conversation avec Rivière, facile de comprendre qu'il ne l'avait pas rencontré dans une bonne journée, trop préoccupé qu'il était par l'arrivée de 1992 et l'entrée en vigueur du marché commun. Reprenons notre lecture. En France, nous étions devenus des intoxiqués de la panification. Et c'était un plaisir toujours renouvelé de choisir et d'acheter notre pain quotidien. La boulangerie du village avait des heures d'ouverture capricieuses. « Madame rouvrira quand elle aura fini sa toilette », m'entendis-je répondre un jour. Ce qui nous encouragea à visiter d'autres établissements dans d'autres villages. Une révélation. Après des années où nous prenions, si j'ose dire, le pain pour argent comptant comme un produit plus ou moins standard, c'était comme découvrir un aliment nouveau. Nous essayâmes les miches compactes de lumière qui exigeaient une mastication appliquée, plus grasse et plus plate que la baguette ordinaire, et les boules à croûte sombres de Cabriès, grosses comme des ballons de football dégonflés. Nous apprîmes quels pains se garderaient toute la journée et lesquels seraient rassis au bout de 3 heures. Le meilleur pain pour confectionner des croutons à tartiner de rouille avant de les lancer dans les ondes d'une soupe de poisson. Nous nous habituâmes au spectacle charmant, mais surprenant au début, de bouteilles de champagne qu'on vendait à côté des tartes et des gâteaux individuels confectionnés chaque matin et qui, à midi, avaient disparu. La plupart des boulangeries avaient leur touche personnelle qui distinguait leur miche de pain de supermarché du supermarché fabriqué en série. De petites variétés sur les formes conventionnelles, une volute décorative supplémentaire dans la croûte, un motif recherché, l'artiste boulanger signant ainsi son œuvre. À croire que le pain fait au pétrin mécanique, tranché et emballé, n'avait jamais été inventé. À Cavaillon, les pages jaunes énumèrent 17 boulangers, mais, nous avait-on dit, un établissement devançait tous les autres pour son choix et sa qualité, un véritable palais du pain. Chez Osé, nous affirmait-on, la cuisson et la dégustation des pains et pâtisseries avaient été élevées au rang d'un véritable culte. Quand le temps est doux, on dispose des tables et des chaises sur le trottoir devant la boulangerie. Ainsi, les Cavaillonnaises peuvent-elles s'installer devant leur chocolat chaud, leurs biscuits aux amandes ou leurs tartes aux fraises, tout en réfléchissant à tête reposée au pain qu'elles vont acheter pour le déjeuner et pour le dîner. Pour les aider, Osé a fait imprimer un vrai menu, la carte des pains. J'en pris un exemplaire sur le comptoir, commandai un café et m'assis au soleil et plongeai dans ma lecture. C'était une nouvelle étape dans mon éducation française. Non seulement elle me fit connaître des pains dont je n'avais jamais entendu parler, mais elle me précisa avec beaucoup de fermeté et de précision avec quoi je devrais les déguster. Pour l'apéritif, j'avais le choix entre les petits carrés qu'on appelait des toasts, un pain surprise qu'on pouvait parfumer avec du jambon fumé finement haché, ou bien les savoureux feuillets salés. Tout cela est simple. Les décisions étaient plus délicates à prendre quand il s'agissait de choisir l'ordonnance du repas. Supposez par exemple que je veuille commencer par des crudités. Il y avait 4 accompagnements possibles. Pain à l'oignon, pain à l'ail, pain à l'olive ou pain au roquefort. Trop compliqué! Dans ce cas, je pouvais avoir des fruits de mer, car l'Évangile selon Osée n'autorisait qu'un seul pain pour accompagner les fruits de mer. Un pain de seigle coupé en tranches fines. Cela se poursuivait ainsi, énumérant avec une brièveté sans faille quel pain je devrais manger avec des charcuteries, du foie gras, de la soupe, de la viande rouge ou blanche, du gibier à plume et du gibier à poil, des viandes fumées, des salades mélangées, à ne pas confondre avec les salades vertes énumérées séparément, et 3 consistances différentes de fromage. Je comptais 18 variétés de pain, allant du pain au thym au pain au poivre, du pain aux noix au pain de son. Perdu dans une brume d'indécision, j'entrai dans le magasin consulter la propriétaire. Que me recommanderait-elle avec du foie de veau ? Elle fit un tour rapide de ses étagères, puis choisit une courte bannette brune. Tout en me rendant ma monnaie, elle me parla d'un restaurant où le chef sert un pain différent avec chacun des 5 plats de son menu. « Voilà, dit-elle, un homme qui comprend le pain. Ça n'est pas comme certains. » Je commençais à comprendre aussi, tout comme je commençais à comprendre les champignons. Ça avait été une matinée très instructive. Rivière était d'humeur lyrique. Il venait de sortir de chez lui pour aller en forêt tuer quelque chose lorsque je le rencontrai sur une colline dominant une longue étendue de vignobles. Son fusil sous le bras et une de ses cigarettes en papier maïs vissée au coin de la bouche, il contemplait la vallée. « Regardez-moi ces vignes » dit-il. « La nature porte vraiment ses plus jolies toilettes !» L'effet de cette observation d'une poésie inattendue fut compromis quand Rivière, après s'être bruyamment éclairci la gorge, cracha par terre. Il avait raison, les vignes étaient spectaculaires. Une succession de champs aux feuilles rousses, jaunes et écarlates, immobiles sous le soleil. Maintenant que le raisin avait été cueilli, il n'y avait plus de tracteurs ni de silhouettes humaines dans cet extraordinaire panorama. On recommencerait à travailler dans les vignes à la tombée des feuilles alors que la taille commencerait. C'était une pause entre les saisons. Il faisait encore chaud, mais ce n'était plus tout à fait l'été et pas encore l'automne. Je demandai à Rivière s'il avait progressé dans la vente de sa propriété. Peut-être un charmant couple allemand tombé amoureux de la maison alors qu'il campait dans les parages. Au mot « campeur », il se hérissa. « Ces gens-là ne pourraient pas se permettre une maison comme la mienne. D'ailleurs, je l'ai retirée du marché jusqu'en 1992. Vous verrez. Quand on supprimera les frontières, ils chercheront tous des maisons dans le coin, les Anglais, les Belges. » D'un geste large, il engloba les autres nationalités du marché commun. Les prix vont monter en flèche. Les maisons dans le Luberon seront très recherchées. Même un petit mas comme le vôtre pourrait aller chercher dans les un ou deux millions. Ce n'était pas la première fois que j'entendais citer 1992 comme l'année où la Provence tout entière allait être inondée sous un déluge d'argent étranger, car en 1992, ce serait l'entrée en vigueur du marché commun. On oublierait les nationalités pour devenir tous une grande et heureuse famille d'Européens. Fini les restrictions de change. Que feraient alors les Italiens, les Espagnols et tous les autres? Ils se précipiteraient sur la région en brandissant leur carnet de chèques. C'était une idée, mais je ne voyais pas pourquoi elle se concrétiserait. La Provence avait déjà une population étrangère considérable qui n'avait eu aucun problème pour acheter des maisons. Et on avait beau parler tout le temps d'intégration européenne, ce n'était pas une date sur un bout de papier qui allait mettre un terme aux tracasseries de la bureaucratie, ni aux mesures préférentielles auxquelles avaient recours tous les membres de ce pays, notamment la France, quand cela les arrangeait. Dans 50 ans, on verrait peut-être une différence. En 1992, certainement pas. Mais Rivière était convaincu. En 1992, il allait vendre et prendre sa retraite, ou peut-être acheter un petit bar-tabac à Cavaillon. Je lui demandai ce qu'il allait faire de ces trois dangereux molosses, et je crus un instant qu'il allait éclater en sanglots. « Ils ne seraient pas heureux en ville, dit-il. Il faudra que je les abatte. » Il marcha auprès de moi quelques minutes et se réconforta en songeant tout haut aux bénéfices qu'il n'allait pas manquer de faire, et ce ne serait pas trop tôt. Toute une vie de rude labeur méritait bien sa récompense. Un homme devrait passer ses vieux jours confortablement et non pas à se briser les reins en cultivant la terre. En fait, son terrain était exceptionnel dans la vallée pour son aspect mal entretenu, mais il en parlait toujours comme si c'était un croisement entre les jardins de Villandry et les vignobles manucurés de Château-Lafitte. Il quitta le sentier pour s'enfoncer dans la forêt et terroriser quelques oiseaux. C'était une vieille canaille, un homme brutal, avide et menteur. Mais je m'étais vraiment attachée à lui. Je trouvai le chemin du retour jonché de cartouches tirées par les hommes que Rivière qualifiait avec mépris de « chasseurs du sentier ». De tristes chochottes qui ne voulaient pas crotter leurs bottes dans la forêt et qui espéraient voir les oiseaux venir voler spontanément dans leurs nuages de chevrotines. Parmi les douilles répandues se trouvaient des paquets de cigarettes écrasées, des boîtes de sardines vides et des bouteilles souvenirs abandonnés là, par ces mêmes amoureux de la nature qui se plaignaient de voir la beauté du Luberon gâchée par les touristes. Leurs préoccupations écologiques n'allaient pas jusqu'à leur faire ramasser leurs propres détritus. Ce n'est pas une catégorie socio-professionnelle très soignée, celle du chasseur. J'arrivais à la maison pour tomber sur une petite conférence qui se tenait autour du compteur électrique dissimulé derrière des arbres. L'homme de l'EDF avait soulevé le couvercle pour faire son relevé et il avait constaté qu'une colonie de fourmis s'était installée là. Les chiffres étaient cachés. Impossible de lire notre consommation d'électricité. Il fallait faire disparaître les insectes. Ma femme et l'homme de l'EDF avaient été rejoints par Colombani, que nous soupçonnions maintenant de vivre dans la chaufferie et qui n'aimait rien tant que de nous conseiller sur tout problème domestique susceptible de se poser. « Oh là là, qu'est-ce qu'agace ! » Un temps pendant que Colombani se penchait pour regarder de plus près le compteur. « Elles sont nombreuses, ces fourmis !» Pour une fois, il avait eu recours à une litote. Les fourmis grouillaient en si grand nombre qu'on aurait dit une masse noire solide, occupant entièrement le boîtier métallique qui abritait le compteur. Je n'y touche pas, déclara l'homme de l'EDF. Elle s'insinue dans vos vêtements et vous morde. La dernière fois que j'ai essayé de démolir une fourmilière, j'en ai eu avec moi tout l'après-midi. Il restait planté là à regarder la masse grouillante, tapotant contre ses dents le bout de son tournevis. Il se tourna vers Colombani. « Vous avez une lampe à souder ?»«
Je suis plombier, bien sûr que j'ai une lampe à souder. »«
Bon, alors nous pouvons les brûler. » Colombani était horrifié. Il fit un pas en arrière et se signa. Il se frappa le front. Il leva son index d'un geste qui était le signe soit d'un désaccord total, soit du début d'une conférence, ou des deux à la fois.
« Je n'arrive pas à croire ce que je viens d'entendre, une lampe à souder. Vous vous rendez compte du courant qui passe là-dedans ?»
L'homme de l'EDF prit un air vexé. « Bien sûr, je suis électricien. » Colombani feignit la surprise.
« Ah bon ? Alors, vous devez savoir ce qui se passe quand on brûle un câble sous tension.
Mais je serai très prudent avec la flamme. »
Prudent ? Prudent, mon Dieu! Nous pourrions tous y passer avec les fourmis! »
Le préposé de l'EDF rengaina son tournevis et croisa les bras. « Très bien, je ne vais pas m'en occuper, à vous de les enlever. » Colombani réfléchit un moment, puis, comme un prestidigitateur qui prépare un tour particulièrement stupéfiant, il se tourna vers ma femme.
« Si, madame, pouvez m'apporter quelques citrons frais, 2 ou 3 suffiront, et un couteau. »
Madame, l'assistante du magicien, revint avec le couteau et les citrons, et Colombani coupa chacun d'eux en 4 quartiers.
« C'est une astuce que m'a enseigné un très vieil homme, » dit-il.
Puis il marmonna quelque chose de parfaitement impoli à propos de l'idée stupide d'utiliser une lampe à souder d'où je ne retiens que quelques bribes.
« Putain de chalumeau ! Eh, putain de con !»
tandis que l'homme de l'EDF boudait sous un arbre. Une fois les citrons coupés, Colombani s'avança vers la fourmilière et se mit à arroser les insectes de jus de citron, en s'arrêtant entre 2 giclées pour observer les effets de cette averse d'acide citrique. Les fourmis, frappées de panique, capitulèrent, évacuant le boîtier du compteur en groupe, se grimpant dans leur hâte les unes sur les autres. Et Colombani savoura son moment de triomphe.
« Et voilà, jeune homme !» dit-il à l'homme de l'EDF. « Les fourmis ne supportent pas le jus de citron frais. Voilà quelque chose que vous aurez appris aujourd'hui. Si vous laissez des rondelles de citron dans vos compteurs, vous n'aurez plus jamais d'autres invasions. »
L'homme de l'EDF encaissa la leçon avec une absence marquée de gracieuseté. Il affirma qu'il n'était pas marchand de citron et que le jus avait rendu le compteur tout poisseux.
Eh, mieux vaut qu'il soit poisseux plutôt que réduit en cendres.
Ce fut la flèche de Parthe que lança Colombani avant de retourner à sa chaudière.
Eh oui, mieux vaut en être collant que carbonisé. Les journées étaient assez douces pour qu'on puisse se baigner. Les nuits assez fraîches pour qu'on fasse du feu. Un temps d'été indien. Cela se termina dans le style excessif qui caractérise le climat provençal. Nous allâmes nous coucher par un soir d'été pour nous réveiller par un matin d'automne. La pluie était arrivée pendant la nuit et continua à tomber presque toute la journée. Non, pas les grosses gouttes tièdes de l'été, mais des rideaux grisâtres qui s'abattaient en torrent vertical, ruisselant sur les vignobles, aplatissant les buissons, transformant les parterres de fleurs en marécages boueux et la boue en rivière brune. Elle s'arrêta en fin d'après-midi et nous allâmes inspecter l'allée, ou plutôt l'endroit où la veille il se trouvait une allée. Elle avait déjà souffert lors du grand orage d'août, mais les ornières creusées alors n'étaient que des égratignures auprès de ce qui s'offrait maintenant à nos regards. Une succession de cratères descendait jusqu'à la route où l'essentiel de l'allée s'était déposé en monticule détrempé. Le reste était dans le champ de melons devant la maison. Une partie du gravier et de pierre avait parcouru plus de 100 mètres. Un champ de mine qu'on viendrait de faire sauter n'aurait guère pu avoir plus triste apparence. Personne, sauf un homme qui détesterait sa voiture, n'aurait tenté de conduire de la route jusqu'à la maison. Il nous fallait un bulldozer rien que pour déblayer ce gâchis et plusieurs tonnes de gravier pour remplacer celui que la pluie avait emporté. J'appelais M. Colombani. Au long des mois, il était devenu une incarnation des pages jaunes. Il portait à notre maison un intérêt de propriétaire. Il nous fit donc part de ses recommandations comme si c'était de son propre argent qu'il s'agissait. Prodiguant les interjections, il m'écouta lui parler de l'allée disparue. J'entendis plus d'une fois « Ah, quelle catastrophe !» pour bien montrer qu'il était pleinement en conscience sur cette étendue du problème. Je terminai mon discours et j'entendis Colombani dresser une liste de ce qu'il nous fallait. Un bulldozer, bien sûr, un camion, une montagne de gravier, un rouleau compresseur. Il fredonnait par moments, sans doute, quelques mesures de Mozart pour aider à la réflexion, puis il prit sa décision. « Bon, je connais un jeune homme, le fils d'un voisin, qui est un artiste du bulldozer, et ses prix sont corrects. Il s'appelle Sanchez, et je vais lui demander de passer demain. » Je rappelai à Colombani qu'une voiture ordinaire ne pouvait pas emprunter l'allée. « Il a l'habitude, » dit Colombani. « Il viendra sur sa moto avec des pneus spéciaux. Il peut passer n'importe où. » Le lendemain matin, je le regardais négocier l'allée, slalomant pour éviter les cratères, debout sur ses repose-pieds quand il franchissait des monticules de terre. Il arrêta son moteur et se retourna. Une véritable gravure en couleur du motocycliste en élégante tenue coordonnée. Il avait les cheveux noirs, un blouson de cuir noir, une moto noire. Il portait des lunettes d'aviateur au verre réfléchissant, impénétrable. Je lui demandai s'il connaissait notre agent d'assurance, M. Printemps, l'arbitre des élégances. Ils auraient fait un beau couple. En une demi-heure, il avait fait à pied le tour du champ de mine, donné une estimation du prix, téléphoné pour commander le gravier et nous avait donné une date ferme. Dans 2 jours, il reviendrait avec le bulldozer. Nous n'en croyons pas nos oreilles et quand Colombani appela ce soir-là en qualité de superviseur des catastrophes, je lui dis que M. Sanchez nous avait surpris par son efficacité. « C'est de la famille !» répondit Colombani. « Son père est un millionnaire du melon. Son fils sera bientôt un millionnaire du bulldozer. Ils ont beau être espagnols, ce sont des gens très sérieux. » Il expliqua que Sanchez, père, était arrivé en France jeune homme pour trouver du travail et qu'il avait mis au point une méthode pour produire des melons plus précoces et plus succulents que personne d'autre en Provence. Aujourd'hui, affirma Colombani, il était si riche qu'il ne travaillait que 2 mois par an et passait tout l'hiver à Alicante. Sanchez fils arriva comme promis et passa la journée à redresser le paysage avec son bulldozer. Il avait une délicatesse de touche fascinante à observer. Il redistribuait des tonnes de terre avec la même précision que s'il se servait d'une truelle. Quand l'allée fut de niveau, il en lissa la surface avec un peigne géant et nous invita à venir voir ce qu'il avait fait. Le sol semblait trop immaculé pour qu'on le foule et il avait légèrement bombé l'allée pour que désormais toute averse à venir s'écoule dans les vignes. « C'est bon ?»«
Aussi bon que l'autoroute de Paris !» répondit Menou.
« Eh bien, je reviens demain !» Il remonta dans la tour de contrôle de son bulldozer et s'éloigna à la vitesse majestueuse de 25 km à l'heure. Demain, on allait épandre le gravier. Le premier véhicule à venir déranger la surface parfaite de l'allée se traîna le lendemain matin jusqu'à la maison pour s'arrêter avec un frisson de soulagement dans notre parking. C'était un camion plus vénérable encore que le camion à vendange d'Amédée. Il était accroupi sur sa suspension et le tuyau d'échappement rouillé touchait presque le sol. Un homme et une femme, tous deux rondelés et hâlés, étaient plantés auprès du camion et regardaient la maison d'un air intéressé. De toute évidence, des ouvriers agricoles itinérants espérant trouver un dernier travail avant d'aller plus au sud pour l'hiver. Ils avaient l'air d'un charmant vieux couple et je les plaignais. « Je crois malheureusement que les vendages sont terminés, » dis-je. L'homme eut un large sourire et hocha la tête. « Et tant mieux, vous avez eu de la chance de les rentrer avant la pluie. » Il montra du doigt la forêt derrière la maison. « Ça doit être plein de champignons là-dedans. »«
Oui, dis-je, plein. »
Il ne donnait aucun signe de départ. Je dis qu'ils pouvaient très bien laisser leur camion là pour aller cueillir des champignons. « Non, non, » répondit l'homme. « Aujourd'hui, on travaille. Mon fils est en route avec le gravier. » Le millionnaire du melon ouvrit le haillon de la camionnette d'où il tira une pelle de maçon à longs manches et un râteau de bois aux dents écartées. « Je vais le laisser décharger le reste, » expliqua-t-il. « Je n'ai pas envie de m'écraser les pieds. » Je regardai à l'intérieur, coincé contre l'arrière des sièges et occupant toute la longueur du véhicule, se trouvait un rouleau compresseur miniature. Pendant que nous attendions son fils, M. Sanchez parla de la vie et de la poursuite du bonheur. « Même après toutes ces années, dit-il, il aimait encore faire par-ci par-là une journée de travail manuel. Il en avait fini avec les melons en juillet et il s'ennuyait. C'était bien agréable d'être riche, mais ce n'était pas suffisant. Et comme il aimait travailler de ses mains, pourquoi ne pas aider son fils ?» Je n'avais encore jamais employé de millionnaire. En général, je n'ai pas beaucoup de temps à leur consacrer, mais celui-là fit une bonne et longue journée de travail. Le fils déversait sur l'allée ses chargements de gravier, le père les étalait en grandes pelletées et Madame Sanchez suivait avec le rouleau pour pousser et aplanir. Puis, on déchargea le rouleau compresseur. On aurait dit une énorme voiture d'enfant avec un guidon, et on lui fit cérémonieusement arpenter l'allée du haut en bas avec Sanchez fils aux commandes et qui criait des instructions à ses parents. « Encore une pelletée ici, un coup de râteau là, attention à vos pieds, ne marchez pas sur les vignes !» C'était un véritable travail familial et à la fin de l'après-midi, nous avions un ruban tout neuf de cravillons bien aplatis, dignes de participer au concours d'élégance organisé par Bulldozer Magazine. On remit l'engin à l'arrière de la camionnette et les parents devant. Le jeune Sanchez annonça que cela coûterait moins cher qu'il l'avait estimé, mais qu'il allait calculer ça exactement et que son père passerait nous apporter la facture. Le lendemain matin, quand je me levai, une camionnette inconnue était garée devant la maison. Je cherchai le conducteur. Personne dans les vignes ni dans les autres bâtiments. Sans doute s'agissait-il d'un chasseur paresseux qui ne voulait pas se donner le mal de monter à pied depuis la route. Nous terminions notre petit déjeuner quand on frappa au carreau. Nous aperçûmes le visage rond et hâlé de M. Sanchez. Il ne voulait pas entrer, dit-il, car ses bottes étaient trop sales. Il était dans la forêt depuis 6 heures du matin et il avait un cadeau pour nous. Il exhiba sa vieille casquette à carreaux débordant de champignons sauvages. Il nous donna sa recette préférée, huile, beurre, ail et persil haché. Il nous raconta aussi une horrible histoire de 3 hommes qui avaient succombé après un plat de champignons mal choisi. Un voisin les avait découverts encore à table, ouvrant de grands yeux exorbités. Monsieur Sanchez nous mima horriblement la scène, complètement paralysé par les plantes vénéneuses. « Mais il ne fallait pas nous faire de soucis, déclara-t-il. Il parierait sa vie sur les champignons qu'il y avait dans sa casquette. Et bon appétit !» Ma femme et moi les dégustâmes le soir même, chacun guettant chez l'autre, entre deux bouchées, les symptômes de paralysie ou d'exophtalmie. Ils étaient tellement plus succulents que des champignons ordinaires que nous décidâmes de faire les frais d'un manuel et de partager une paire de bottes anti-serpents. Il arrive un moment dans la restauration d'une vieille maison où l'envie d'en finir avec les travaux risque de compromettre toute noble intention esthétique de départ. La tentation de se contenter de raccourcis vient nous ronger à mesure que les retards s'accumulent et que les excuses se multiplient. Le menuisier s'est coupé une phalange, le maçon s'est fait voler la camionnette, le peintre a la grippe, l'installation de plomberie commandée en mai, promise pour juin, n'arrivera qu'en septembre. La bétonneuse, les décombres, les pelles et les pioches ont l'air fichés à vie comme des ormeaux sur leur rocher. Durant les brûlants mois d'été, sous l'influence tranquillisante du soleil, nous avions pu contempler d'un œil indulgent les travaux inachevés dans toute la maison. Maintenant que nous passions davantage de temps à l'intérieur, en leur compagnie, la patience avait cédé la place à l'irritation. Avec Christian, l'architecte, nous fîmes la tournée des pièces pour déterminer ce qu'il fallait faire et combien de temps cela prendrait. « Normalement, » dit Christian, un homme doué d'un grand charme et d'un optimisme implacable, « il n'y en a que pour 6 ou 7 jours de travail, un peu de maçonnerie, un coup de plâtre, 2 jours de peinture et voilà, terminé. » C'était encourageant. Comme nous l'expliquâmes à Christian, nous avions connu récemment des moments de dépression où nous nous imaginions le matin de Noël circulant encore au milieu des décombres d'un chantier de construction. Horrifié, il leva les bras au ciel. Mains, sourcils, épaules, tout. Quelle idée ! Il était inconcevable que ces simples finitions prennent encore longtemps. Il allait téléphoner immédiatement aux divers membres de son équipe pour organiser une semaine d'intense activité. Les choses allaient avancer. Mieux que cela, on allait conclure. Un à un, ils débarquèrent à la maison à tout moment. Didier et son chien à 7 heures du matin, l'électricien à l'heure du déjeuner, Michel le plâtrier pour un verre en fin de soirée. Ils venaient non pour travailler, mais pour examiner le travail qui restait à faire. Ils étaient tous stupéfaits que cela eût pris si longtemps. comme si c'était d'autres gens qu'eux-mêmes qui en étaient responsables. Chacun nous expliquait, en confidence, le problème. Il fallait tout attendre, toujours attendre que le camarade ait terminé avant de pouvoir commencer. Quand nous évoquâmes Noël, ils éclatèrent de rire. Noël ? Eh, c'était dans des mois. D'ici là, ils pourraient presque bâtir une maison tout entière. Nous observions pourtant chez tous une certaine répugnance à fixer une date. « Quand pouvez-vous venir ? » demandâmes-nous. « Bientôt, bientôt » dirent-ils. Il fallut nous contenter de cela. Nous sortîmes devant la maison, là où la bétonnière montait la garde sur les marches du perron, et nous imaginâmes à sa place un cyprès qui se dresserait bientôt et bientôt. Le changement de saison n'avait pas très bien commencé en Provence cette année-là. Nous avons lu un été indien, cela se termina dans le style excessif qui caractérise le climat provençal. Nous sommes couchés pour un soir d'été et nous réveillés pour un matin d'automne. Pendant la nuit, la pluie d'automne a commencé à tomber et tout s'est désorganisé. Heureusement que M. Colombani, comme chaque fois, va trouver la solution et Sanchez, père et fils, viendront remettre tout en ordre. Pour une fois, les travaux seront faits rapidement dans une très bonne ambiance. Une exception. Et pour l'heure, nous laissons Peter Mail et son épouse un peu lassés des autres travaux qui n'arrivent pas à se faire. Nous poursuivrons la lecture du livre « Une année en Provence » de Peter Mail dans notre prochaine émission. À bientôt, chers auditeurs. N'oubliez pas, Radio Alliance Plus, je lis pour vous.